Causeur. Drôle de nom pour un Pokémon.
Hello à tous et à toutes, évidemment, nos auditeurs et auditrices francophones. Non, vous ne rêvez pas. Donc ouais, bon, Tom a été assez magnanime pour me laisser le micro une deuxième semaine consécutive, puisqu'il est absent ce soir. Enfin, ce soir, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure vous nous écoutez, pardon. Avec moi aujourd'hui, on retrouve Fred, Maxime, Mélanie et Stéphane.
Et
bonjour.
Bon, c'était le week-end de Pâques, donc quand même, dans votre famille, vous êtes plus les cloches sont passées ou les lapins ont amené les chocolats?
Aucun des deux. J'ai même pas mangé un chocolat des trois jours.
Moi, j'ai toujours pas compris le concept des lapins qui pondaient des œufs.
Non, vous avez pas mangé. Les autres n'ont pas mangé de chocolat non plus.
Bah, Maxime, il peut pas manger et boire.
Ben non, faut choisir. Ouais. C'est comme conduire.
Mélanie, t'as fait la chasse aux œufs?
Ouais, plus ou moins, ouais. Dans l'appartement, c'est pas une grande chasse aux œufs, mais bon.
En fait, elle les avait laissés dans le placard et elle attendait jusqu'à aller les chercher.
Non, c'était caché derrière l'imprimante.
Ah, waouh, c'est fragile, mais d'accord.
Ça sera pour les cadeaux de Noël de 2023.
Alors oui, dans ce numéro, on va vous parler des visionnages récents qu'on a pu voir et on va commencer.
Et il a raison, Tom, tu roules l'air.
C'est vrai, mais je
crois que tu viens de le faire.
Mais je parle vraiment comme ça. Mais moi, je vous dis, c'est parce que je suis étrangère, au cas où vous ne le saviez pas, et qu'en apprenant le français, on m'a toujours dit, il faut bien prononcer les R, et donc peut-être que j'ai un accent sur les R. Voilà. Voilà. Oui, je disais, on va commencer par Beef, aka Acharné en français, disponible sur Netflix en ce moment, qui est un petit peu, qui fait du bruit, hein, qui fait pas mal de buzz autour, qui veut peut-être nous pitcher la série. Je délègue ça aussi.
Oui. Ben moi, je veux bien, puisque personne n'a l'air de se lancer. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Beef? C'est un homme et une femme qui se rencontrent sur la route. Alors, c'est pas pour une histoire d'amour, mais c'est parce qu'ils se... ils ont failli se rentrer dedans, donc ils se klaxonnent, ils s'énervent, ils se font des gestes pas très jolis, et ils se pourchassent dans la rue. Et à partir de là, ben, en fait, ça va dégénérer. Ils vont se venger l'un de l'autre hors de la rue, et ça va un peu impacter leur vie. Voilà.
Un peu beaucoup, oui.
Non, mais je voulais laisser du mystère, tu vois.
Moi, je suis donc, comme ça. Dans la série, on a un cast majoritairement asiatique, voire majoritairement coréen même, il faut le dire. C'est créé par Lee Sung-jin, qui est donc d'origine coréenne, que je pense honnêtement, enfin qui est assez inconnu en fait au bataillon. Donc, il a écrit quelques épisodes de It's Always Sunny, mais à part ça... pas
enfin,
grand-chose.
Il a écrit, d'excellentes comédies, hein, que ce soit Tuca et Bertie et même Outsource. J'ai découvert qu'il avait écrit pour Outsource, quoi.
Ouais, enfin, quand on dit écrit pour, on parle de 2-3 épisodes, hein, donc
oui, oui,
calmons-nous.
C'est sa première création. Voilà. Ouais.
C'est tout à fait sa première création. Qu'est-ce qui vous a plu ou peut-être plus déplu dans cette série? Qui l'a vu déjà? Pardon, j'ai dit ça, mais qui l'a vu?
Moi.
Ouais, moi aussi.
Ok, c'est parti.
Qu'est-ce qui m'a plu? Alors, j'ai été surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été ému beaucoup plus qu'il ne fallait, je pense. En fait, c'est une série sur la solitude et sur le poids de la société, enfin de tout, de ta famille, du monde, de ce que toi tu te dis qu'il faut que tu réussisses dans la vie. Et voilà, je sais pas, c'était très étrange. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup réfléchi et pensé aussi à ce que je dois plus faire sur la route. Et voilà. Non, c'était une introspection assez intense, Beef, en fait. Voilà.
Bah, faut dire que Ali Wong et Steven Yeun, ils sont quand même magistraux dans ces deux rôles. Ils sont ultra antipathiques, en fait, et c'est très compliqué d'aimer des personnages. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à aimer des personnages antipathiques à ce point-là. Le personnage d'Amy est vraiment... c'est une pourriture, en vrai. Enfin, elle l'admet elle-même, mais c'est une pourriture. Et du coup, les premiers épisodes, c'est quand même très compliqué d'avoir un peu d'empathie pour l'un comme pour l'autre. Alors que tu comprends en plus qu'ils sont totalement tous les deux au bord de la crise de nerfs, en fait, de la dépression. Et que cette rencontre va un peu les réveiller.
Tu trouves que Amy est au bord de la dépression?
Ah, mais clairement.
Tu es en plein dedans?
Ah, oui. Moi, je trouve que le personnage de Dani, là, joué par Steven, oui, mais alors celui d'Amy, non, je le trouve complètement apathique, en fait. Elle n'arrive pas à se sortir d'une situation, mais.
Oui, mais justement.
Justement, c'est
justement,
ça.
Je ne la trouvais pas déprimée, mais bon, voilà.
Mais elle est en burn-out, dépression, complètement.
Elle a tout ce qui. tout pour lui plaire, en fait. Elle a une famille, elle a un job qui marche de dingue, elle a une vie rêvée, entre guillemets, et on voit bien qu'en fait, elle n'est pas du tout satisfaite par cette vie, parce qu'elle en vient à tromper son mari, à poursuivre...
Ouais, enfin, elle est un peu aidée, quand même. Hein. Son mari, il a pas fait des choses non plus toutes roses pour la pousser.
Mais voilà. Ça, au début, elle le sait pas, au début de la série. Mm.
Si, elle le sait après, elle apprend vite. Que...
Ah non, elle l'apprend. Bah non,
elle l'apprend sur la fin. Hein.
Mm. Non. Ok, d'accord. Bon,
et elle a bien lâché la rampe avant.
Ah oui, ça, clairement, oui. Oui, oui.
Donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu fascinant à regarder. C'est en fait, tu regardes ces deux personnages que tu vois foncer dans un mur au ralenti.
Et qui entraînent toute leur famille dans leur chute.
Ah, ouais. Ils sont au volant de la voiture, il y a tout le monde dedans et ils foncent quand même parce que ils veulent pas lâcher le morceau le premier.
Vous voyez la pub de la sécurité routière, il y a les deux voitures qui se rentrent dedans et t'as les gens qui sont au volant qui passent à travers les vitres et en fait il y a toute leur famille qui passe aussi dans leurs vitres en même temps.
Ouais.
Oui. Et bien en fait
pas
c'est ça. Ça m'a fait.
Quelle est cette pub? Non, pas
c'est une
tout.
Pub de la sécurité routière qui passe à la télé et en fait ça m'a fait. Okay. C'est pour moi c'est bif en fait. C'est toi qui fonces droit dans la personne en face. Tu crèves et en même temps t'amènes tous les gens qui sont avec toi et non mais j'ai été vraiment touché par
la
série.
C'est un bon résumé.
En fait. Ouais, mais ce qui est super intéressant aussi c'est que tu t'attends en fait en voyant toujours deux personnages l'un contre l'autre, il y a toujours le will they won't they et t'as l'impression qu'il va y avoir une histoire d'amour à un moment donné ou à un autre, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout le propos de la série et je n'ai pas l'impression qu'ils vont vouloir aller par là s'il y a une saison 2. C'est juste vraiment deux personnes qui sont complètement jetées, qui ont complètement
qui sont seules,
pété un câble,
qui enchaînent aussi
seules.
Les mauvaises décisions.
Oui.
À chaque fois qu'il y a une mauvaise décision à prendre, on dirait qu'ils sautent dessus. Ils vont jamais dans le bon sens.
Mais c'est parce que c'est aussi la décision la plus facile à prendre, même si c'est pas la meilleure, c'est clairement la plus facile. Et en fait, ils prennent toujours des portes de sortie les plus simples et qui leur font faire de la merde. Mais alors, ils font clairement de la merde pendant 10 épisodes, quoi.
À un moment, vers la fin, je crois que c'est dans l'avant-dernier épisode, il y a une conversation entre Amy et son mari où elle lui dit, elle lui avoue un peu tout et elle lui dit qu'en gros, elle, c'est une mauvaise personne et lui, c'est une bonne personne et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais tu vois très clairement qu'en fait, vu tout ce qu'elle fait, ça lui suffit pas et t'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est ces deux personnes, Dani et Amy, qui s'attirent parce qu'en fait, ils sont mauvais l'un pour l'autre et c'est ce qu'ils cherchent. Et ça va avec ce truc de prendre tout le temps la mauvaise décision où Dani, tu te dis, il aurait très français ça. Il aurait très vite pu arrêter le massacre entre guillemets, et il le fait pas parce que à un moment donné il y trouve son intérêt ou il laisse sa violence, sa rage prendre le dessus parce que il est complètement frustré de la vie, que son business ne fonctionne pas, qu'il est totalement seul, etc. Et je trouve que ça fait un super contrepoint où il est pas frappé comme Amy, mais il est quand même complètement détruit.
Un peu quoi.
Et c'est un gros connard surtout. Beaucoup plus qu'elle, je trouve. Hein, mais parce qu'il est en train de vraiment. Ah si, il fait des choix.
Ils ont chaque les braquages.
Et les deux.
Ah non, mais vis-à-vis de son frère, moi ce qu'il fait à son frère, c'est vraiment. Moi j'ai trouvé ça ignoble. Mais et sur les plusieurs.
Il est super égoïste en fait. On a l'impression qu'il fait tout pour lui, puis on découvre que en fait tout ce qu'il a fait pour son frère, c'est juste pour sa pomme à lui.
Mmh. Oui, ah oui, pour ses parents, c'est pareil. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, moi, je suis un peu passée à côté, vraiment. Je pensais que j'allais aimer. J'ai vu les acteurs dedans, je les adore. Enfin, vraiment, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas aimé. En fait, c'est le point de départ qui est hyper mondain, cette dispute dans la voiture, incivilité, etc. Ça m'a complètement bloquée, je pense. Ok, oui, c'est bien écrit et je suis d'accord que c'est très beau dans l'introspection, dans la solitude. Mais en fait, à aucun moment, je trouve ça crédible. Et pourtant, je sais que beaucoup de gens disent, mais si, mais justement, moi aussi, parfois, je pète des câbles comme ça. Peut-être, très bien. Mais c'est juste que cette surenchère à chaque fois, ça m'a complètement sorti de la série, quoi.
Non, mais après, il y a de la fiction.
C'est une grosse escalade, quand même. Il faut y aller pour arriver à ce point-là.
Mais tu sais que le réalisateur, Lee Sung-jin, il a dit que, en fait, le point de départ, c'est un truc que lui a vécu, quoi. Il s'est fait klaxonner alors que dans la rue, alors que a priori il disait qu'il avait rien fait, donc il a pourchassé le mec en voiture, quoi. Donc,
oui, mais ça c'est fou déjà.
Oui, voilà. Clairement. Je me vois pas le faire en fait.
Ben c'est ça, mais moi,
je me vois m'énerver, faire des gestes et gueuler et râler dans ma voiture, mais de là à poursuivre la personne, je le vois pas, quoi.
Par contre, moi, le reproche que j'ai vraiment envers la série, c'est que ça se regarde très très bien, mais en fait, ça se suit quasiment comme dans un film, et j'ai eu l'impression de regarder un film. Enfin, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose.
Oui, ça se binge facilement.
Et ça, c'est un peu dommage, parce que je trouve que...
Bon, il y a le saut dans le temps, quand même, de 8 mois, qui fait qu'il y a une grosse coupure, et quand même qui repose les bases, et qui repart...
Mais ça, pareil, franchement, à partir de là, enfin, je sais pas, ils pourraient lâcher l'affaire. Tu te dis, ça, c'est les gens qui ne cèdent pas eux-mêmes, je suis désolée. Moi, j'ai du mal avec les personnages comme ça, qu'on ne cède pas, voilà.
Ah oui, non, mais c'est ça aussi.
Oui, mais je suis pas sûr que ce soit le but d'être en totale empathie avec eux, hein. Parce qu'à aucun moment,
évidemment que non.
Même quand Amy elle a son espèce d'introspection avec ses parents et etc. Tu te rends bien compte en fait que elle s'est juste trouvé des excuses toute sa vie pour justifier que c'est une connasse. Hein, mais, très clairement.
Ah mais alors c'est peut-être, mais je sais pas, mais moi je trouve, enfin je fais pareil.
Sa mère elle lui dit tu peux pas, en gros elle lui dit tu peux pas trouver des excuses pour tout dans ton passé, etc. Enfin, et là pour le coup c'est totalement,
bon, je pense
vrai.
Qu'il y a des psychanalystes qui seraient pas d'accord, hein.
Non, bah oui, mais en vrai c'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec la mère d'Amy pour le coup, où, en effet tu peux trouver des excuses dans ton passé à certains traits de ton caractère, mais c'est en aucun cas une excuse pour les choix que tu fais.
Voilà, ça peut pas toujours être de la faute des autres. Parfois, faut reconnaître ses torts et savoir quand c'est toi qui t'es planté et avancer.
Et
c'est ce qu'ils font de temps en temps, quand même, je trouve.
À quel moment ?
Mais c'est le problème. Pour moi, c'est le sujet de la série, en fait. C'est de dire, OK, vous pouvez être complètement fucked up parce que votre contexte social ou familial vous a un petit peu détraqué. Mais en fait, les choix que vous faites, c'est vous qui les faites.
Voilà, c'est propre à vous.
C'est pas ta mère, c'est pas ton mari, c'est pas ton frère.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Alors, en tout cas, ça se regarde, il faut absolument regarder. Je crois qu'il y a.
C'est intéressant.
Ça va secouer pas mal de monde, je pense.
Ouais, je sais pas, parce que moi, du coup, j'ai pas regardé, mais vous me vendez pas du rêve en décrivant les personnages comme ça. Donc, pas de point d'accroche sur les persos, j'aurai du mal.
C'est très indé, hein.
Ouais. Ils sont antipathiques, mais c'est super intéressant de regarder l'escalade qu'il peut y avoir et même le mix de sentiments que ça peut apporter, que ce soit du rire, que ce soit. De l'énervement face au personnage. Enfin, t'as tout un mix qui est super intéressant de voir de l'épisode 1 à l'épisode 10. Et c'est vrai que ça s'enchaîne un peu comme un film, quoi.
Mais moi, personnellement, je les ai trouvés, moi, très touchants, mais.
Touchants, peut-être. Sur le dernier épisode, mais sur les 9 premiers, non.
Ah, si, bah, je sais pas. Je dois être peut-être plus détraqué que vous, en fait. Ça doit être pour ça.
Ah oui, parce que moi, pour le coup, les persos qui m'ont touché, c'est plus le frère et le mari, pour le coup, qui, en fait, subissent juste les conneries des personnes qui sont à côté.
Ouais, enfin, je suis pas d'accord, hein, mais bon, après, voilà.
Le frère, il mérite. J'ai eu envie de le gifler pendant plusieurs épisodes.
Non, franchement, non. Je suis pas du tout. Non, le frère, c'est justement l'un des rares, je trouve, qui reste un petit peu. Innocent dans tout savoir. Je vais pas dire le mot pur, mais genre pour moi son personnage c'est le moins impliqué dans tout ça.
Il se fait quand même manipuler émotionnellement par tout le monde, et à un moment il pète un câble et il fait un truc pas bien. Mais franchement, je comprends vachement plus son geste à lui que tout ce que les deux autres ont pu faire depuis le début. Donc il a quand même, moi il m'a un peu plus touché dans le sens où vraiment tu sens que c'est parce qu'il est complètement blessé au plus profond de lui-même, il comprend pas ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Et on peut parler de Maria Bello, voilà.
Elle est tarée dans ce, enfin c'est très bien comme rôle, mais complètement tarée comme personnage.
Je l'aime beaucoup. Je veux qu'elle ait une série à elle toute seule et voilà.
Avec Ashley Park.
Moi, oui. Bon, mais Ashley Park, elle a déjà sa série. Emily in Paris.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Elle est très bien dedans, je trouve. Enfin, dans...
Ah, mais Ashley Park, elle est géniale. Pour la petite histoire, c'est elle qui joue elle joue dans Mean Girls, la comédie musicale. Et d'ailleurs, je me demande si elle reprend pas son rôle dans le film. Faudrait que je check. Bref, on s'en fiche. Alors, on va passer à la série suivante. On va vous parler de la reprise de The Mandalorian. Donc, saison 3. J'ai lu pas mal de trucs de retour dessus et honnêtement, la plupart des gens sont un peu déçus. Alors, est-ce que c'est votre cas, Fred?
Moi, je regarde ça toujours d'un œil un peu distrait, avec un peu de recul. C'est pas la série sur laquelle je suis super impatient à chaque épisode. Pour resituer, du coup, c'est la suite de la saison 2, à la fin de laquelle le petit Grogu, le Baby Yoda, il partait avec Lucas Skywalker et tout. Ah non, il avait été enlevé. Il avait été enlevé. Mais en fait, faut avoir vu cette série de merde qui était The Book of Boba Fett, dans laquelle, en parallèle, on avait toute l'histoire de Grogu et Mandalorian qui venait aussi. Donc en fait, c'était une saison 2.5 de The Mandalorian. Et maintenant, on se retrouve avec le Mandalorian qui a retrouvé Grogu et qui revit encore un petit peu ses aventures. Avec, on arrive sur une planète, on a une aventure, on déménage. Mais il y a quand même cette fois une ligne qui est un peu plus conductrice autour de Mandalore encore, parce qu'il veut encore racheter, avoir son honneur de Mandalorian et tout ça. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on voit plus Bo-Katan.
Bo-Katan, ouais. Katy Sackhoff.
Exactement. Donc ça c'est un bon point. Mais c'est pas dingue. Ça reste toujours assez vide en termes de décor et tout ça. Donc c'est propre. Hein, c'est loin d'être moche. Mais voilà. Il se passe des choses. On oublie vite ce qui s'est passé. Voilà. Pour moi, c'est juste distrayant. J'ai bien aimé le dernier épisode qui est passé parce qu'il y avait pas mal de guests dedans. C'était plutôt cool.
Voilà. Ouais.
Voilà. J'adore Jack Black. Donc voilà.
Que t'aimais Lizzo. Ah,
bah, je trouve qu'elle passe bien dans le rôle aussi. Et puis il y a Christopher Lloyd aussi. Hein, donc,
oui.
Sacré guest dans cet épisode quand même.
Ouais,
Mélanie, t'es à jour, c'est ça?
Ouais. Ah bah oui, avec Abby, je suis à jour. Hein.
C'est l'épisode qui est réalisé par Bryce Dallas Howard en plus, donc elle avait déjà fait ses preuves sur la série. Donc ça passe tout seul.
Elle avait fait des très bons épisodes, ouais.
Ouais, donc ça passe plutôt bien, mais il nous en reste encore deux des épisodes, je crois, mais je vois pas trop où ça va aller, mais voilà, ça reste anecdotique. Hein.
Ouais, à part le dernier épisode qui était plutôt bon, pour l'instant, depuis le début de la saison, t'avais pas l'impression de savoir où ils allaient, ça restait superficiel, et tu regardes ça, tu la regardais, hop, tu passes au prochain, quoi. C'est pas... Les deux premières saisons étaient bien meilleures.
Ah, t'es à jour aussi, Stéphane ?
Ah oui, mais moi aussi. Jour, oui.
Tu trouves, pour l'instant, hormis le dernier épisode, tu la trouves bonne, la saison 3 ?
Alors, non, j'ai pas dit ça. Il y a une direction dans le machin. Les premiers épisodes, c'est pour qu'il retrouve son honneur. Après, c'est la reconstruction de Mandalore avec Bo-Katan, enfin l'intégration de Bo-Katan pour lui faire comprendre que en fait il y a d'autres façons d'être Mandalorian. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, et beaucoup de choses qui sont dites, qui font suite à tout ce qu'on a pu voir dans les séries animées comme Star Wars Rebels sur les Mandaloriens. Et voilà. Enfin, de l'univers Star Wars, ça dit beaucoup de choses, ça raconte beaucoup de choses. Après, que les gens ne soient pas forcément au courant et qu'en effet, c'est un peu chiant à regarder, c'est vrai.
Ça reste assez light, quoi, parce que
on
est sur Mandalore, on a trois pèlerins qui se baladent dessus quand même. Enfin, ça reste cheap, hein.
Mais en même temps, ça a été détruit. On te dit que c'est contaminé, donc je vois pas pourquoi il y aura encore des gens, mais bon, voilà, quoi.
Ouais, mais quand il arrive sur la colonie, ils sont 10, quoi. Enfin, c'est pas très fourni. S'ils veulent avoir un truc un peu épique, on en est loin.
Mais ça n'a jamais été, je pense, l'ambition de The Mandalorian, d'être épique.
Non, c'est un western, de toute façon, Mandalorian.
Ouais, ouais.
Non, mais puis pour moi, le problème, c'est que Disney essaye de faire un Marvel bis, dans le sens où tu dois avoir vu toutes les séries pour constituer un univers. Et la preuve, ce que tu as dit, Fred, sur l'histoire de Grogu, ça montre très clairement ça. Et j'ai l'impression de revoir Marvel, ou si t'as pas suivi X série, tu ne comprendras pas certains éléments de l'intrigue. Et c'est dommage, parce que du coup, moi j'en viens à vraiment totalement me désintéresser de The Mandalorian, alors que c'était un peu ma nouvelle porte d'entrée dans l'univers Star Wars, où la première saison, même la deuxième, enfin même surtout la deuxième, ouais, je me suis vraiment réintéressé à l'univers et je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire vraiment. Alors que les films m'ont toujours, j'aime bien, mais ça m'a toujours laissé un peu de côté en termes de personnages, d'univers, etc. Et là, dans la troisième saison, même si tu comprends qu'il veut continuer un peu là-dessus avec justement Mandalore, etc., le fait que Grogu, on ait vu toute l'intrigue dans une autre série, j'étais là, j'ai pas envie de me refarcir trois autres séries qui en plus sont très clairement pas bonnes, pour comprendre ce que je veux dans la série qui me plaît. Et je sais pas, c'est là où moi, ils m'ont complètement perdu. Mais vraiment, cette saison, je suis déconnecté au total.
Mais en fait, je trouve que cette saison 3, pour le coup, qui s'intéresse vraiment à Mandalore, en fait, elle est pas faite pour les néophytes. Mais alors, clairement pas du tout, quoi. Mais bon, après, ça, c'est un problème de Jon Favreau, hein. Il fait n'importe quoi et il pense que tout le monde connaît Star Wars et qu'il aime bien Star Wars et que tout le monde le suivra. Mais je suis moyennement convaincu que ça peut fonctionner, quoi.
Non, mais en plus, il y a des passages où tu dis, mais où est-ce qu'ils veulent aller? Ils mettent des flashbacks, mais sur lesquels il n'y a pas de retour derrière, en fait. Donc, je ne vois pas trop ce qu'ils veulent faire.
Bah, c'est un manque de direction.
Bah, tout dépend des derniers épisodes de la saison. C'est ça le truc. En fait, c'est vrai que là, on juge l'emballage sur 6 épisodes, alors qu'il y en a 8. Et c'est sûr que tout ce qu'ils nous ont présenté, avec, comme tu dis, même le scientifique là, qui avait gros goût au début, on a perdu presque 40 minutes avec lui, alors que, enfin, pas perdu parce que ça racontait quand même quelque chose, mais on ne sait pas si ça va avoir un intérêt vraiment. Je pense que ça l'aura, mais pas tout de suite.
Pas forcément cette saison.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a des trucs qui revalident la prélogie. Quand on a tout le flashback sur justement Grogu dans le temple Jedi et tout ça, il y a des trucs qui revalident la prélogie, ça fait plaisir quand même, parce qu'il y avait des bonnes choses dans la prélogie, mine de rien.
Et j'ai une question. Le personnage de Cathy Sackhoff, on est d'accord, c'est que dans The Mandalorian ?
Non.
Non ? Ok.
Rebels aussi allié, Bo-Katan.
Ouais, dans les séries animées, on la retrouve. Okay. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que du coup, la série va bientôt prendre fin, parce qu'ils ont annoncé un téléfilm de conclusion, grosso modo.
Ouais.
Donc ça, c'est cool. En tout cas, il devrait théoriquement avoir une ligne directrice.
Petit aparté sur ça d'ailleurs, avec les prochains spin-offs qui ont été annoncés, est-ce qu'il y en a un qui vous enthousiasme plus que d'autres ?
Alors attends, tu parles des spin-offs en film là pour le coup ?
Bah tout, les films, les séries, les animés.
Moi les séries animées, Ahsoka, The Acolyte et Skeleton Crew, je les attends avec impatience. Les films un peu moins, mais les séries, ouais, carrément. Ouais. Ouais,
surtout que la bande-annonce d'Ahsoka, elle est vraiment canon.
Ouais. Alors, j'aurais pas la bande-annonce, donc je trépigne à bon sens de voir la série, mais en même temps, on va voir Jude Law dans une série Star Wars, donc rien que là, j'ai presque envie de faire des trucs sales avec moi-même, tu vois.
Vous voulez redire quelque chose sur Mandalorian ou on est bien ? On est pas mal ?
Moi, je pense que ça a enterré mon intérêt pour la saga.
Bon,
peux comprendre au final, hein, parce que, pardon, mais comme je disais, pour les néophytes, c'est pas forcément... En fait, il y a pas forcément de bonne porte d'entrée à part les séries animées. Mais bon, c'est compliqué, quoi.
C'est ça que je trouve dommage dans une franchise où quand même la plupart des gens qui regardent les séries ont quand même au moins à minima vu les films. Alors, moi, c'est mon cas et je suis censé être intéressé. Ouais. Enfin, je viens en connaissance de cause et pourtant, je suis complètement largué. C'est là où je comprends pas, en fait, le dosage qu'ils ont fait.
Mais c'est vrai que les Mandalorians, dans les films, on n'en parle quasiment pas, quoi.
Non, mais moi, je suis comme Maxime, je suis pas grande fan des films et j'avais bien aimé première et deuxième saison, mais là, je suis même pas à jour parce que ça m'a saoulé. Enfin,
ça s'intéresse à une mythologie qui n'a jamais été abordée ailleurs et que tu n'as pas vue ailleurs. Donc,
oui, mais en fait, cette mythologie actuellement dans la saison 3 était intéressante et avec des mystères ou quoi que ce soit, oui, je m'y serais intéressée. Mais en fait, c'est juste que là, comme vous dites, c'était mal amené.
Bref. Et puis les personnages sont monolithiques, hein, ils n'ont pas grand-chose à raconter. Quoi.
En même temps, c'est des Mandalorians, donc en même temps, c'est pas le personnage les plus ventants de la planète. Quoi.
Et puis Grogu, bon, c'était mignon sur une saison, deux saisons, bon, au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose.
Il aide les gens à mettre des buts.
Oui, voilà.
Il fait des petits sauts.
Ils ont réglé son histoire, donc en soi, Grogu, il est juste là pour faire du merchandising et puis c'est tout, quoi. Parce que sinon, on aurait pu continuer la série Mandalorian et Bo-Katan, quoi. Donc ça aurait été même mieux, je pense. Mais bon.
Donc c'est pour ça, c'est juste bien en mangeant, quoi.
Voilà. On va dire ça. On va passer à la prochaine série du côté d'Apple TV+, cette fois-ci. Et je pense que la plupart de nos causeurs ont bien aimé. Je vous parle de The Big Door Prize. C'est le cas, non ? Vous avez bien aimé, ceux qui ont vu ?
Pas vu.
T'as pas aimé ?
Je suis désolé Stéphane.
Non, mais
on en a parlé en plus déjà. Mais moi, oui.
Ah, j'ai dû faire ça de ma mémoire.
Tu peux nous parler un petit peu de la série, s'il te plaît ?
Pitch-la.
Wow. Alors, c'est pas Severance, mais c'est pas loin.
C'est ça.
Bah, en vrai, c'est un peu le sentiment que j'ai eu sur les 3 premiers épisodes que j'ai vus. Du coup, c'est porté par Chris O'Dowd.
Chris
O'Dowd. Voilà. Et en gros, c'est dans une petite ville américaine, il y a une machine qui apparaît dans un bureau de tabac, enfin en tout cas une épicerie. Une épicerie. Et cette machine permet de révéler en gros le potentiel de
vie.
La personne qui met une pièce, je crois. Je ne sais plus si c'est une pièce ou...
C'est ça.
Voilà. Et en gros, ça lui dit ce qu'il est fait, ce pourquoi il est fait dans la vie. Et
c'est 2 dollars quand même. Je pense que c'est plusieurs pièces. Mais...
Et s'ensuit une crise existentielle en fait pour le personnage principal qui n'apprécie pas vraiment que son destin soit tracé comme ça par une machine et donc voilà, il il essaye de lutter un peu contre ça. Et hormis le pitch de départ où, que je trouve assez superficiel, je pense que c'est ce pitch de départ assez superficiel et pas très développé qui fait que je m'intéresse pas trop en fait à ce que vit le personnage et que les considérations qu'il a autour de sa vie, de son travail, de ce pourquoi il est fait, ses ambitions, enfin voilà, ses désirs profonds, on va dire, fait que je m'y intéresse pas énormément en fait. Et les trois premiers épisodes sont passés, je trouvais ça sympa, mais ça m'a vraiment pas touché et ça n'a pas déclenché ce que je pense ça a déclenché chez toi Stéphane, c'est-à-dire une remise en question de toute sa vie.
Mais ce serait ton potentiel de vie,
voilà,
Stéphane.
C'est ça. Je dois être à fleur de peau, donc ça doit être pour ça que tous les trucs existentiels en ce moment ça me travaille.
Maxime aussi, je suis d'accord avec toi que le personnage, le Chris O'Dowd, avec lui on peut ne pas forcément être empathique ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un récit assez choral avec plusieurs personnages.
Sa femme
est vraiment chouette aussi, et même le gamin, je sens qu'il est prometteur pour le. Enfin, il a quelque chose, et pareil pour le prêtre aussi. Sens que ça va arriver, il va dire des choses intéressantes.
Ah, t'as pas regardé l'épisode 4, toi?
Ah non, pas encore. Ah ben voilà. C'est vrai. Et enfin, tout ça pour dire que non seulement le personnage principal peut être un petit peu frustrant, mais les autres, ils ont des choses à dire. Et c'est ça. Enfin, c'est le principe même de celui qui est héros n'a pas forcément les plus grandes qualités. En revanche, tout l'ensemble autour, voilà, il y a vraiment des choses à dire. Et c'est cet équilibre-là, je trouve. Je trouve l'image très belle aussi, il faut le dire.
Le générique est super beau.
Est très beau. Hein. Ouais. Apple, ils ont tout compris, quoi.
Ouais. Il y a un casting de fou, il y a une belle image, un peu de la belle musique et l'histoire est bien quoi. Puis enfin ça m'a touché. J'ai fait des remises en question, je me suis posé des questions existentielles, philosophiques, métaphysiques.
Bien sûr.
C'est peut-être moi, hein, je pense un hein, peut-être que c'est moi qui me pose trop de questions. Je sais pas. Je peux pas vous dire, ça me fait quelque chose. Regarder un épisode, en fait, j'ai eu du mal à me lancer, j'ai regardé les trois premiers d'un coup. Et je me suis dit vivement le prochain. Et quand j'ai eu le prochain entre les doigts, je me suis dit non, mais en fait, je suis pas prêt parce que je ne peux pas me refaire encore autant
du
mal. Et me poser des questions. Et puis je savais plus ou moins où l'histoire du Father Ruben là, ça allait partir, enfin du prêtre. Et en fait, ben voilà quoi. C'est dur. Enfin, c'est très dur.
L'histoire de l'épisode 4, tu savais comment ça allait se passer?
Oui, ben.
Je l'ai pas vu, mais moi aussi, si tu me dis que c'est sur lui, j'ai des petits doutes aussi.
Ouais. Ben, de toute façon, à la fin de chaque épisode, t'as quelqu'un qui découvre sa carte ou qui dit ce qu'il y a dessus. Donc c'est lui le héros du prochain épisode, quoi. Mais voilà. Mais moi, je trouve ça très très bien fait. Pour le coup, c'est du Apple tout craché.
Moi, je trouve le conseil très fort. Hein.
Ah oui,
surtout dans la société aujourd'hui. Ouais. En fait, tout le monde se pose ces questions-là, dans le sens où on se sent pas assez... j'ai pas envie de dire qu'on prend pas assez soin de nous, mais dans le sens où chacun se sent délaissé, que ce soit par la société tout court, dans le sens du gouvernement, que ce soit même dans la solitude avec les amis ou justement le manque d'amis. Et donc, je pense que ça peut vraiment remettre les gens en question, je suis complètement d'accord.
Et les deux, que ce soit The Big Door Prize et Beef, je trouve qu'elles se sont fait écho et sur la solitude, sur ton rapport face à la société, etc.
Enfin, aux parents aussi.
Ah oui, aux parents aussi, oui, parce que oui, c'est vrai que la femme de Chris O'Dowd,
elle a du mérite.
Ah oui, clairement, oui. Mais, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça très beau et très, très, et tout en restant ensemble et accessible. Hein. Oui. C'est pas un truc.
C'est pas du fantastique. Ouais. Enfin, c'est pas high concept non plus.
Mais moi, je sais que Severance, du coup.
On verra, parce que je suis pas sûr, parce que quand on voit le flashback sur ce qui s'est passé avec la machine, le jeune, là, quand il l'a installé, on en reparlera à la fin de la saison. Mais voilà. Mais ça mérite le coup d'œil, clairement.
Voilà.
Ok.
J'ai presque envie. Ouais.
Vraiment, regarder l'épisode 4 maintenant.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai presque envie de vous le lâcher juste pour allumer Apple TV. Continue d'ailleurs sur de l'Apple TV. Il y a aussi la reprise de Ted Lasso récemment. Et voilà. Oui. Quelqu'un peut en parler ou pas?
Je crois que moi, Apple TV me déçoit un petit peu en ce moment. Enfin, me déçoit. C'est un bien grand mot. Hein. Mais ce début de saison, c'est pas ce que la série a donné de mieux, je trouve.
Ah ouais, clairement.
Je suis malheureusement d'accord aussi. Ouais.
Tout le monde est d'accord. Hein. C'est vrai que c'est assez mou. Ouais.
Bah, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de surprises, il y a plus cet effet waouh en fait dans l'épisode où un petit mot, une conversation, un twist même fait que ça va avoir des conséquences importantes sur les personnages. On va avoir des discussions qui sont très émouvantes ou des séquences tendres, etc. Et là, j'ai l'impression que tout ce qu'on voit, c'est très bien fait, mais ça n'a plus cet impact-là que ça pouvait avoir dans les deux premières saisons. Et le dernier truc, pour moi, c'est que je trouve le personnage de Ted, en fait, trop en retrait.
Oui.
Et il stagne.
Oui, mais ça me dérange pas pour le coup. Pour le coup, c'est plutôt avec Nate, c'est le personnage de Nate qui me frustre un petit peu, dans le sens où en quatre épisodes, épisodes, c'est il se va-et-vient entre oui j'écoute Rupert Head, enfin j'ai oublié Anthony Head, pas Rupert Rupert, où je fais preuve d'une once d'humanité et je serre la main à Ted, mais en fait j'en ai marre de ce petit ça dure trop longtemps. Pour moi, soit tu prends en part, enfin t'embrasses complètement la philosophie de Rupert, ou alors tu reviens un petit peu et tu restes une bonne personne entre guillemets, et tu décides à dire bonjour à ton ancien coach, quoi. Voilà, à un moment faut choisir dans la vie aussi, Nate. Et
oui,
là, bah quatre épisodes, c'est trop long.
Bah oui, ouais, mais il va choisir, mais dans les six qui arrivent, quoi.
Ouais, super.
Ouais, alors qu'ils auraient dû avoir une explication dès le début, en fait, justement pour lancer peut-être un conflit, un truc.
Bah, c'est ça.
Manque. Hein.
Oh, bah, ils l'ont eu, mais par médias interposés, quoi.
Ouais, mais du coup, moi, la série, ça me donne juste... C'est une série sur le foot qui doit être punchy, qui met de bonne humeur et tout ça. Moi, j'ai juste l'impression de mettre des pantoufles quand je le regarde. Hein.
Bah, je suis d'accord, un petit peu. Après, j'ai ça, mais dans le quatrième, Stéphane le sait, mais il y a genre une actrice que j'adore qui arrive, donc vue dans For All Mankind, et je suis très contente qu'elle soit là, et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer, même si ça me saoule de ce futur développement, parce que je trouvais le moment de rencontre avec Kayleigh vraiment horrible. Mais bon, ça c'est, enfin, genre malaisant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Ok. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on est... c'est vrai que quand tu
regardes sur
YouTube, ouais, c'est ça en fait. On a de la qualité, bon, parce qu'il y a quand même de la qualité encore aujourd'hui, hein. Mais on n'a plus ce sentiment de, je sais pas, de, comme disait Maxime, peut-être de découverte ou d'émerveillement comme on avait. Ouais, voilà, c'est peut-être ça, c'est fané, quoi, tout simplement. Hein. Mais oui, c'est dommage que ce soit arrivé alors que la série devrait plus ou moins se conclure à la fin de la saison.
Oui, mais dans un sens, c'est assez logique. C'est vrai que Ted Lasso a toujours. Tabler sur sa fraîcheur, sur son côté vraiment un peu ovni en ce moment à la télé, qui tendait un peu vers Parks and Rec, en fait, quelque chose de très positif, ou en tout cas qui tendait vers le positif, vers le bien. Et je pense que, bah, en fait, au bout de trois saisons, là, il a un peu dit tout ce qu'il avait à dire. C'est peut-être pas plus mal que ça s'arrête.
Alors, récemment, j'ai lu une interview de Bill Lawrence, donc, qui est co-créateur et, de Ted Lasso. Et il disait qu'il avait beaucoup aidé, parce qu'on est, enfin, ils sont venus le chercher pour la création et tout ça, machin. Donc, il était là, il a charronné la saison 1. Il a plus ou moins formé les gens. Et en saison 2, il s'est barré.
Ah, dès la saison 2 ?
Ouais, parce qu'il avait d'autres choses à faire, ou en cours de route, il a laissé les autres parce qu'ils arrivaient, ils voyaient qu'ils se débrouillaient. Et donc, clairement, pour la saison 3, il n'y est pas. Alors, peut-être que aussi, je vais pas dire que c'est un peu de sa faute, mais peut-être que la magie Bill Lawrence ne fonctionne plus parce qu'en effet, il n'est plus là, quoi.
Mais je pense qu'au début, il y avait un aspect beaucoup plus humoristique, alors que là, c'est plus de la dramédie.
Et les épisodes sont beaucoup trop longs.
Ouais, toujours. Oui, mais en fait. C'est Brett Goldstein aussi. Ouais. Enfin, je pense que ça joue beaucoup. Tu vois, Shrinking, je trouve que c'est la même tonalité pour le coup. Hein. C'est pas très humoristique et c'est très dépressif. Et on retrouve un petit peu dans la saison 3, je trouve.
Bah, de toute façon, tout tourne autour de la déprime de Ted Lasso. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais pareil, comme je te disais, peut-être que si ça fonctionne sur Shrinking, c'est parce que là, Bill Lawrence est là et qu'il a tout fait. Qu'il apporte son talent, quoi. Enfin, tout simplement. Après, on verra. A priori, si j'ai compris, qu'il n'allait pas forcément rester très longtemps sur la série, parce que son but du jeu, c'est de former les scénaristes, leur montrer comment on showrun et tout ça, et de se barrer, d'enchaîner les projets comme ça, quoi. On verra. Hein. Peut-être que la saison 2 de Shrinking sera moins bonne parce que Bill Lawrence a décidé de partir aussi. Et peut-être que là, on se dira, bon, bah, en effet, c'était lui plus que les séries ou les scénaristes, quoi.
On va continuer dans la bonne humeur, enfin, ou le semblant de bonne humeur, avec Grace, The Rise of the Pink Ladies. Pour la petite anecdote, j'ai checké, mais les Pink Ladies, les pommes, ne viennent pas du tout en référence de ces Pink Ladies-là. Voilà.
Et t'as vérifié ça, t'es sûr?
Oui, tout à fait.
Je crois qu'on pouvait te le dire, mais bon, ok.
Donc, du coup, alors, qui aime bien Grease de base, le film?
Moi.
Non.
Yes.
Ben, je pourrais pas te dire.
Tu l'as jamais vu?
Si, je l'ai vu, mais ça m'a pas laissé, à part une ou deux chansons, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, plus des moments de pop culture qu'autre chose, quoi.
Ouais, pareil.
Oui, moi, c'est un petit peu le truc d'enfance que les parents regardaient, et du coup, ouais. Enfin, surtout ma mère. Hein. Donc, après, de là, voir une série télé, du coup, bah, je vais voir ce que vous en dites.
Mélanie, tu l'as vu, du coup?
J'ai vu que le premier pour l'instant.
Ouais, pareil.
Tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle?
Ça se situe donc avant Grease, plus combien d'années avant. Ouais. C'est que 4 ans? D'accord.
Ouais.
Ouais. Je me souviens que c'était en 54, mais je me souvenais plus. Donc, il y a une nouvelle qui arrive donc au lycée et qui a connu un des élèves du lycée durant l'été, donc un peu comme dans Grease, et qui, dès le premier jour de la rentrée, a déjà une réputation complètement, on va dire, flinguée à cause de lui. Et à cause de ça, elle va se présenter aux élections du lycée pour contrer le groupe de gens populaires et se former à elle un nouveau groupe d'amis.
Et on rappelle donc que ça reste musical parce que ça reprend un petit peu le concept de Grease, hein, donc série musicale. Stéphane, toi, t'as vu un peu plus d'épisodes, c'est ça?
J'ai vu les deux qui sont sortis sur Paramount+, et c'est très bien. C'est frais, c'est drôle, c'est enjoué, les chansons sont excellentes, les chorégraphies sont encore mieux, enfin, les acteurs sont... Tu montes du doigt un personnage, c'est sûr que il deviendra dans quelques années, il sera célèbre. Voilà. Mais non, franchement,
t'es très
franchement, c'est un pied. Moi, j'ai pris mon pied, total quoi. Enfin, c'était vraiment.
T'as presque préféré la série au film, quoi.
Ah ben, comme j'ai très peu.
C'est pas comparable en vrai, parce que le film a quand même bien mal vieilli. Hein. Ok, les chansons restent dans la culture populaire, mais en soi, le film.
Oui, clairement. Mais en fait, alors je me souviens plus, c'est à l'été. Jones qui a écrit, mais bon, enfin je sais plus, je veux pas dire peut-être une connerie, ou réalisé, je sais plus. En fait, ça a été modernisé. Voilà, oui. Tout simplement, c'est féministe, c'est malin et c'est osé. Franchement, pour l'instant, c'est sans faute quoi.
Moi, je vais remettre un petit peu en contexte, dans le sens où ils font dans le surjeu, donc ils font vraiment des références comédie musicale dans tout, donc dans la manière de jouer, dans les couleurs hyper vives. Je trouve que les chansons sont très bien, je trouve que les chorégraphies sont encore meilleures. Ouais. En revanche, je trouve que de base, tout le côté je suis au lycée, l'inclusivité, c'est très bien, vous savez que je suis complètement pour, mais je trouve qu'il y a des petites... Là, c'est fait trop token, je suis désolée. Oui. Là, c'est limite... ok, dans le groupe de 4 femmes, il y a la non-binaire, je voulais dire, j'en sais rien. Hein. La Latinx de service. Donc, je trouve que ça, c'est un petit peu too much, dans le sens où ça me paraît pas du tout naturel. Surtout que c'est...
Ça se passe toujours dans les années 50, du coup.
Bah, 54.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, j'entends que c'est féministe du message qu'ils veulent apporter, d'aussi les actions, enfin, les blazers, enfin, les vestes roses, du coup, ça, je trouve ça très cool. Mais tout l'ensemble, du coup, je trouve qu'il y en a un peu trop et que c'est pas du tout, que ça reste un teen show très basique dans ce côté-là. Alors que oui, et niveau musical, ça, c'est excellent pour le coup.
Ouais, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai vu que le premier, du coup, et, les histoires m'ont profondément ennuyé. J'ai trouvé ça très criard et ouais, très superficiel, les intrigues. Par contre, c'est vrai qu'en termes de production, tu prends une petite claque.
C'est joli, hein.
Ouais, tu prends une petite claque parce que franchement, une série dont on n'a pas entendu parler. Enfin voilà, c'était pas The Last of Us ou je ne sais quoi. Enfin, une série comme ça avec une prod pareille en termes de numéros musicaux. J'avais un peu l'impression qu'ils avaient bien vu West Side Story et qu'ils avaient bien appris leur leçon, parce que franchement, je sais pas ce qu'ils ont comme budget, mais chapeau.
J'étais en train de vérifier, voir si on allait avoir beaucoup d'épisodes, et en fait, on va quand même en avoir 10. Hein.
Ouais.
C'est ça qui est bien, parce que je me suis dit, en fait, on va avoir une saison courte parce qu'il va y avoir beaucoup de budget pour pas grand-chose. Voilà, pour histoire que ce soit bien clinquant, mais en fait, non, on va avoir une saison quand même assez conséquente, et si ça tient comme ça jusqu'à la fin, ben moi, je dis chapeau quand même.
Enfin, le deuxième, après, je le trouve encore meilleur que le premier. Le premier, oui, il était un petit peu léger, hein, quand même.
Oui, le deuxième
dans l'introduction. Ouais, le deuxième est vraiment meilleur. Oui,
clairement.
Et bon, et après, il y a vraiment le groupe des quatre qui se forme, donc ça, c'est sympathique aussi. Mais donc, si vous aimez bien les musicals, je le conseille à 200%. En revanche, si vous êtes là pour retrouver Grease, je suis même pas sûre qu'on retrouve Grease, quoi. Voilà. Ça s'ouvre sur Grease is the World, mais bon, il y a que ça.
En même temps, Grease, c'est un moment particulier de l'histoire et c'est qui se passe dans 4 ans, donc je vois pas ce que tu cherches.
Oui, mais il y a des liens quand même. Ben si, il y a des liens, parce qu'on pourrait se dire
il y a des personnages plus jeunes qui vont apparaître, qui seront dans Grease, quoi. Mais bon, après, voilà, quoi.
Et est-ce que, comme dans Grease, les acteurs ont en fait 35 ans?
Franchement, je suis désolée, mais dans le groupe des bien là... deux, je me demande quel âge elles ont. Moi, je veux pas le savoir,
Olivia, je suis sûre, elle a plus de 20 ans, c'est obligé.
Ah oui, non, mais oui, il y en a qui sont sacrément...
25 ans, elles ont autour de 25 ans, je suis en train de regarder, c'est ça.
Ah oui, ça me fait penser que dans l'équipe créative musicale, il y avait un mec que j'avais vu qui avait beaucoup bossé sur des clips, que ce soit Miley Cyrus ou Demi Lovato, etc. Donc je pense qu'il y a ce côté moderne qui est apporté dans les chorés, dans l'image des numéros musicaux qui aident beaucoup. Voilà.
Ouais.
On va continuer un petit peu, un petit mot rapide parce que j'y tenais quand même, pour parler d'une autre série musicale sortie sur Disney+. Up Here, ou Tête à Tête en français. Donc là, je crois qu'il n'y a que Stéphane qui l'a vu.
J'ai vu que la moitié, moi.
D'accord. Bon, Mélanie, si tu veux en parler, vas-y.
Alors, Up Here, c'est avec...
May Whitman,
merci, bordel.
Et Carlos Valdés.
Ah, bah là, j'aurais jamais retrouvé ça.
C'est Cisco de The Flash.
Oui, Cisco de The Flash, où j'ai mis quand même 2 épisodes à me rendre compte que c'était lui. Hein.
Oui,
il chante très bien, c'est un vrai, lui. Hein. Enfin, pardon, c'est un vrai par rapport à May Whitman. Il a vraiment fait de la comédie musicale.
Donc, tu as le personnage de May Whitman, Lindsay, qui part vivre son rêve de devenir auteur à New York. Et elle va rencontrer Miguel, qui, dans un bar... Et ils vont devenir comme ça, amis, amants. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Moi, je suis que quatrième, forcément, c'est encore ça, mais c'est pendant un bon moment.
Ouais, il y a 8 épisodes en tout, en vrai.
Et t'as même pas dit l'originalité de la série, en fait.
Tu
peux le dire, c'est dans la
bande-annonce. C'est le pitch, hein, c'est le concept,
oui, clairement.
Hein, ouais.
En fait, elle voit ses parents.
C'est une de ses amies.
Une de ses anciennes amies du lycée qui l'a plus ou moins bien traité. Et lui, pareil, voit aussi certains membres de sa famille quand il doit prendre des grandes décisions, lui l'orienter à plus ou moins bien, on va dire.
Oui, c'est les voix passées qui vivent avec eux encore aujourd'hui, quoi.
Voilà.
Et c'est pas bien. C'est nul.
Oh non, nul, t'exagères.
T'as pas aimé?
Pardon. Ah non, en fait, c'est pour ça que j'ai pas continué, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça...
Alors que, tu vois, là, je la compare donc à Grease, enfin à Pink Ladies pendant 2 secondes. Je trouve que cette série-là, elle est mieux écrite, les personnages sont beaucoup plus attachants, et ça raconte quelque chose. En revanche, moi, je trouve que les numéros musicaux sont un peu plus light. Les chorés sont sympas, et encore une fois, désolé, mais Carlos Valdés est quand même meilleur que May Whitman. Et on voit que c'est réfléchi. Et ce qui est bien, c'est que toutes les chansons, là, sont véritablement intégrées naturellement. Ça ne fait pas High School Musical, en fait. Mmh. Contrairement à Grease, qui fait un petit peu High School Musical. Mais là, tout s'imbrique très bien. Et ça se passe dans les années 90 aussi, donc il y a une sorte de nostalgie qui joue. Et je les trouve très, très mignons. Et c'est une véritable histoire d'amour. Et ça me manque un petit peu. En vrai, on n'a pas tant de romance que ça sur petit écran, à part The Fletcher. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut aussi le voir.
J'ai pas
si
fini
vous
aussi.
Vous aimez la romance.
Ah voilà. Oui.
Voilà. Et niveau mignonnerie, franchement, je trouve qu'on est vachement servi là.
Maya Whitman, elle est toujours super touchante, quoi qu'il arrive.
Oui.
Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque. C'est pour ça que j'ai toujours pas fini. J'ai commencé il y a au moins 3 semaines et je suis toujours qu'à 4 épisodes, quoi. Il y a un truc qui manque dans la série.
Bah, ça veut dire beaucoup, hein, je pense. Hein.
Oui. Non, mais les chansons sont pas non plus transcendantes. Ouais, hein, je le reconnais. Hein.
Oui, clairement.
Mais
c'est dommage parce qu'on te le vend comme une série musicale. Donc c'est vrai que si ça aide pas du côté des chansons et des danses, c'est un peu frustrant, quoi. Voilà.
Ouais. Mais leurs histoires, enfin leur trajectoire à tous les deux, je les trouve quand même sympathiques. Voilà. Et il y a aussi quelques tentatives d'originalité dans la réalisation aussi, il faut le dire. Bah voilà, c'était juste un petit aparté.
Et c'est à voir et... sur Disney+, je sais pas si tu l'as dit.
Tout à fait, ouais, ah ouais. Disney+. Et, ah oui, donc, encore une fois, comme une fois n'est pas coutume, mais bon, comme Tom m'a laissé hoster ce soir, je me suis dit, on va parler animé. Donc là, ouais. Ça va être ouais, autour de Fred pour parler de Vinland Saga, saison 2. On est à l'épisode 10 peut-être, hein, même,
ah, même plus, mais moi, j'en suis pas encore là. J'avoue, okay. Je suis un peu en retard sur la saison 2. Ouais. Mais
c'est quoi? Parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est Vinland Saga.
Oui, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est Vinland Saga?
Alors, Vinland Saga, à la base, c'est un manga qui est sorti au Japon en 2005 et qui a commencé à sortir en France en 2009. Donc, ça fait un petit moment que c'est en cours. Et il y a eu, du coup, évidemment, un animé qu'on a été tiré, qui en est à la deuxième saison actuellement. C'est dispo sur Netflix et Crunchyroll, il me semble aussi.
Oui, tout à fait.
Et du coup, ben, pour prendre le pitch, hein, il est assez simple, hein, ça parle de vikings, grosso modo, et on a du coup le jeune Thorfinn qui a vu son père assassiné par des pirates vikings, et lui, il se fait enlever par eux, donc il va les suivre, et en même temps qu'il va du coup être impliqué dans les conflits, les guerres, etc., ben, dans lesquelles on prépare les vikings, ben, en particulier l'invasion d'Angleterre et tout ça, lui il va essayer de mener aussi sa quête de vengeance, alors qu'en même temps il est assez obnubilé par le côté charismatique justement du chef de ces pirates qui l'a emmené. Donc c'est il y a pas mal de dilemmes chez ce jeune qui veut se venger, et c'est plutôt c'est plutôt sympa à suivre, c'est super quali au niveau du dessin, de l'animation et tout ça, c'est vraiment vraiment prenant à regarder, et puis quand on aime les histoires de vikings, ben forcément on tombe facilement dedans, donc voilà.
Ça se voit où?
Netflix. Ça se voit sur Netflix et Crunchyroll, on a dit.
On l'a dit, ouais. Tout à l'heure.
Ah, nous écoute un peu là.
Mais non, parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer de voir à quoi ça me faisait penser. Ça me fait penser à Thorgal, je sais pas pourquoi. Mais
ouais, oui, oui, c'est le nom, parce qu'il s'appelle Thorfinn, mais rien à voir avec Thorgal.
Ok. Mais ouais, si t'as suivi Viking, regardé The Northman, voilà, des choses comme ça.
Tout ça,
je serais pas dépaysé, quoi.
Pas du tout.
Ok, ça marche.
Je pensais d'ailleurs qu'ils avaient surfé sur la vague, mais en fait, j'ai appris plus tard, effectivement, que le manga était sorti plus tôt. Donc pas du tout. Et oui, je tiens à dire aussi, c'est vrai que l'animation, je crois que c'est ceux aussi qui font Spy X Family, Great Pretender qui est aussi sur Netflix. Donc oui, ça marche très bien. Ah, Attaque des Titans aussi peut-être. J'ai un doute là-dessus.
J'ai un doute
soudain. Ouais. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment quali et c'est
les tout ce que réussit.
Bah 24 épisodes, c'est des classiques pour les animés.
Ouais, okay. C'est des épisodes de 20 minutes, hein, évidemment. Oui.
Et c'est toujours des saisons, enfin une voire deux maximum, ou ça va continuer? C'est ça qui me stresse en fait.
Toute la première saison traite du premier cycle du manga. Et le deuxième cycle, il est en cours, quoi, et est adapté là sur la deuxième saison. Donc quoi qu'il arrive, ils risquent d'être bloqués, parce que ça pas, ils peuvent le manga est diffusé à un certain rythme. C'est pas aussi régulier que d'autres, et c'est pas fini. Donc du coup, ils risquent de prendre un peu d'avance, ou alors il y aura une grosse pause à un moment donné. Après, l'avantage, c'est que la première saison, elle a une vraie fin.
Oui, complètement.
Elle a une vraie fin, et la deuxième saison, du coup, qui a commencé depuis plusieurs semaines, on retrouve le personnage de Thorfinn, mais des années plus tard, et c'est vraiment un autre contexte. Donc, on va explorer d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez riche, parce qu'on parle de, voilà, on parle de guerre, on parle de religion aussi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de conflits entre ces différentes religions qui se rencontraient, plus des destins personnages, l'esclavage, etc. Donc, voilà, c'est assez riche, et c'est plutôt adulte, quoi, comme sujet. Donc,
c'est ce que j'allais te demander. C'est plus pour un public adulte qu'un public jeune ado.
C'est même vibe que l'Attaque des Titans, encore une fois. Hein. C'est pas vibe, c'est tout mignon. Hein.
Ouais. Il y a pas de fantastique, à part quelques visions,
violent.
Des fois.
C'est très violent. Ça parle de que c'est très très violent. Mais moi, je suis un peu déçue par cette saison 2 parce que il y a trop d'épisodes où on ne suit pas Thorfinn, en fait. C'est beaucoup des fillers, un peu. Quand on suit le roi, je trouve ça normal, parce qu'en fait, c'était une sorte d'histoire double destin à la Kingdom sur la première saison, donc je peux comprendre. Mais Mais en fait, il y a beaucoup trop de choses où je m'en fiche et je veux qu'il avance, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il stagne. Donc, pareil. Ouais.
Peut-être qu'ils essaient de gagner du temps parce que justement, ils savent que sur le manga, c'est encore en cours.
Bah donc, oui, mais au moins, ils peuvent boucler un peu cet arc-là. Et tant pis s'il y a une pause de 10 ans comme Hunter x Hunter, on s'en fiche, quoi, en fait. Ouais, ouais. Tu vois. Mais bon.
Mais après, ce qui est bien, c'est que ça s'intéresse aussi un petit peu à la vie quotidienne. Et ça, on l'a assez peu finalement dans d'autres œuvres.
Oui, mais je regarde pas Vinland Saga pour la vie quotidienne. Je regarde d'autres séries pour la vie quotidienne. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a tellement d'autres séries, justement, pan de vie que j'adore, enfin, d'autres animés. Et clairement, c'est pas celui-là que je recherchais, quoi. Mais après, c'est toujours aussi joli. Les nouvelles relations qui se construisent, notamment, il se fait un ami, ça, je trouve ça super mignon aussi, quoi. Mais bon, je voudrais
un
que ça
ami
avance,
ou un ami à un ami?
Non, un ami. Mais bon. Voilà. Et je trouve aussi qu'on n'exploite pas assez les conséquences de son passé. Enfin, de son passé tout court. Parce que, ouais, ok, super, il fait des cauchemars, mais en fait, c'est tout. Et je trouve que, voilà, c'est pas assez.
Bah, là, j'en suis un peu là, ouais. Et je trouve que les cauchemars sont chouettes, par contre.
Oui.
Il y a des visions qui peuvent être assez dantesques, qui sont vraiment pas mal.
Mais ça, c'est le problème des animés en général, je trouve, où ils ont tendance à dire. À pas faire de lien vraiment entre sauf effectivement des séries comme One Piece où là t'as l'impression que tout est lié, mais parfois on parle d'un truc et on l'oublie et c'est comme si ça avait jamais existé, quoi. Donc on passe complètement à autre chose. Donc ça, c'est peut-être le petit reproche que je ferais, mais ouais, sinon plutôt sympa. Bon, l'autre reproche, c'est qu'il y a pas du tout de perso féminin, mais bon, c'est autre chose. Voilà.
Tiens à dire que j'ai beaucoup aimé ce petit point animé, qu'il faudrait qu'on en fasse plus souvent, parce que je suis un gros néophyte, j'aimerais toujours me lancer dans des trucs et en fait je sais jamais quoi prendre dans l'immensité qui nous arrive au fur et à mesure. Et la preuve, je t'avais suivi quand tu m'as dit regarde Ranking of Kings, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est vrai que je passe à côté d'un pan de la culture animée que j'aimerais combler de temps en temps, quoi.
Voilà. Regarde, donc je prends quoi. Pas.
Voilà. Ce qu'il va falloir surveiller, ça va être Pluto, du coup, qui est l'adaptation d'un super manga qui va débarquer sur Netflix bientôt.
Ok, je note.
Plutôt, c'est le chien de Mickey.
Merci Maxime.
Ouais, là, c'est Valdant par plus de robots. Et du coup, c'est plutôt cool.
Donc, voilà, bah, merci d'avoir été prêt. Oui, c'est la fin, tout à fait. Est-ce que c'était le mot de la fin, celui-ci? Sauf si vous avez soudainement envie de dire quelque chose de spécifique. Coup de gueule, on voulait parler d'un coup de gueule, j'avais oublié ça.
Ah bon?
Pardon.
Bah, c'est pas moi. Mais non, on l'a mentionné deux ou trois fois, on a parlé de Shrinking. Série Apple TV Plus avec Jason Segel et Harrison Ford. Regardez-la. C'est très mignon. Voilà. Ça mérite le coup d'œil. C'est des psys qui s'aident pour aider leurs patients à aller mieux et qui essayent de régler leurs propres problèmes dans leur vie. Et c'est vraiment sympathique. Et Harrison Ford est juste exceptionnel dedans.
Ouais. Voilà. Il est toujours grincheux, mais il est très bien.
Oui. Et ça va en parallèle de 1923 qui vient d'arriver aussi sur Paramount Plus, donc ça vous fait une double dose d'Harrison Ford en attendant Indiana Jones 5. Voilà, c'est très bien.
J'ai un petit coup de cœur qui fera plaisir à Aki.
Vas-y.
Le premier épisode de Shmigazoon saison 2 est quand même en un seul épisode bien meilleur que toute la saison 1.
Ah ouais?
Voilà. Oui, vraiment.
Ça vaut le coup que je me relance parce que j'avais vraiment détesté Shmigadoon. Enfin, Shmigadoon et là c'est Shmikago.
Shmikago. Oui, ça s'appelle toujours Shmigadoon, mais c'est juste que leur univers c'est Shmikago. Ouais.
Bon, bah si c'est toujours.
Et c'est beaucoup plus méta en fait sur l'univers des comédies musicales. Donc il y a moins ce truc un peu énervant de personnages qui sont un peu j'ai perdu le mot. En décalage par rapport au personnage de la comédie musicale. Et là, ils le sont beaucoup moins, je trouve, le personnage de... comment s'appelle l'actrice déjà? Cécilie Strong,
oui.
Voilà, son personnage, il change un peu. Je pense qu'ils l'ont un peu réécrit entre les deux saisons, mais elle est devenue fan de comédie musicale. Elle explique toutes les règles qu'il y a, donc tu les vois.
C'était un peu le cas déjà dans la saison 1. Mais c'est vrai que là, elle est beaucoup plus impliquée, où elle fait partie intégrante des numéros. Moi aussi, je trouvais ça très malin. Et même pour Keegan aussi, enfin, le personnage de Josh, c'est aussi très intéressant comme changement. Bref, je suis d'accord que cette saison 2 s'est vraiment améliorée.
Ok, moi je vais
en revanche, je trouve que les changements sont toujours difficiles d'accès quand même. Je le reconnais. Je les réécoute pas en fait, vraiment.
Et juste une question, donc Schmigago, c'est basé sur les intrigues de Chicago ou c'est...
Alors, oui et non. Ouais. Ah. Oui, parce que c'est les musicals des années 60-70, donc un peu noir, un peu à la Chicago, effectivement. Okay. Mais il n'y a pas que Chicago, il y a aussi Sweeney Todd.
Ah oui, parce que j'ai vu une histoire. C'est pas Alan Cumming qui fait
tout à fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est tout ce qui est un peu plus sanglant, quoi. Moins.
Exact.
Tout est beau, tout est joli.
Et ouais. c'est dit dès le début de l'épisode, en fait.
Ouais,
ça y est, on passe dans la...
À une autre ère.
Oui, et dans un côté beaucoup plus sexe, violence.
Ah, bah, c'est voilà. Tout ce qui me plaît, tout ce qui va me manquer de la première saison, en fait. Ah, ok, d'accord, parfait.
Et ma bonne surprise, c'était Dove Cameron aussi, qui jouait un peu la blonde de service dans la première saison. Et là, elle déploie vraiment ses talents, quoi. Là, je comprends pourquoi c'est une véritable star américaine.
Et il y a toujours Aaron Feith.
Oui.
Bah, bien sûr, évidemment.
Même moi, je le trouvais joli à regarder, quoi.
Ah, très joli à regarder.
Puis sa voix aussi est assez incroyable.
Oh, mais Branded.
Oui, bon. voilà. On voulait juste dire que on a vu les articles aujourd'hui qui disaient que Variety avait spoilé Succession pour tous leurs lecteurs.
Il n'y a pas que Variety, hein.
Oui, plein de gens, et on trouve
tous
ça
les médias
dégueulasse. Voilà.
C'est pas cool.
On trouve vraiment ça nul.
Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai tendance à suivre les comptes de HBO et de HBO Max, et même eux, ils se sont largement. Enfin, c'est honteux. Mais bon, après, ils pensent qu'à leur pays, donc en même temps, c'est normal, quoi.
Oui, mais même dans leur pays, ils peuvent ne pas regarder au moment de la diffusion, en fait. Entre le teasing et le spoil, je suis désolée. Enfin, bref.
J'ai l'impression d'être dans un champ de bataille parce que vraiment je suis en train d'éviter les balles depuis ce matin. Je n'ai toujours pas été spoilé. Depuis hier matin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lâcher un truc.
Bref, voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel malgré l'absence de Tom. Je récapitule, on était ce soir avec Stéphane, Fred, Mélanie et Maxime et moi-même, Aki, merci. Bonne soirée, bonne journée, voilà. Dites au revoir aux gens, s'il vous plaît.
Au revoir.
Là.
À bientôt.
À bientôt.
Regardez les séries.
Bye.